Le journal Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, clap de fin pour les débats en première lecture sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe a dégainé le 49-3 pour faire adopter le texte sans vote. Les autres titres, Laurence ?
Le coronavirus qui commence à affecter la vie quotidienne des Français avec la fermeture d'établissements scolaires et des grands rassemblements qui sont annulés. Un accord historique pour l'avenir de l'Afghanistan, États-Unis et Talibans signent un accord qui ouvre la voie à un retrait total des troupes américaines après 18 ans de guerre. Et puis fini les abonnements et autres tickets. Le Luxembourg est passé hier à la gratuité dans les transports publics. C'est une première mondiale pour un pays.
Les invités du 6-9, les réactions politiques après l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. À 7h50 avec Patricia Martin, Stanislas Guérini qui est délégué général de La République En Marche et député de Paris. Et à 8h20, Boris Vallaud, député socialiste des Landes et porte-parole du Parti Socialiste.
France Inter. Édouard Philippe a donc décidé de recourir à l'article 49.3 pour valider sans vote le projet de loi ordinaire sur la réforme des retraites contesté dans la rue depuis 3 mois. C'est la première fois que la majorité issue de l'élection d'Emmanuel Macron utilise cette procédure considérée comme une forme de brutalité par l'opposition de droite comme de gauche. Maxence Lambrec.
Les marcheurs les plus exaspérés par cette méthode sont restés chez eux hier, loin des micros et de leurs collègues. Le député Aurélien Taché a tweeté « Le recours au 49.3 est toujours une forme d'échec ». Collègue Martine Vonner attendait plus de dialogue, il serait temps dans cet acte 2 du quinquennat, dit-elle. On est tombé dans le piège des insoumis, se désole un autre. Le 49-3 a été dans les tuyaux depuis une semaine, évoqué lors de dîners entre ministres, acté avant-hier, mais les députés de la majorité n'ont reçu qu'un SMS quelques minutes avant l'annonce. La droite, elle, avait déjà préparé sa motion de censure qu'elle a pu dégainer une heure plus tard. Communistes, insoumis et socialistes ont repris la plume hier soir. Ces deux motions seront rejetées mardi par la majorité. La réforme des retraites pourra donc rejoindre le Sénat en avril, mais Jean-Luc Mélenchon ne dépose pas les armes.
Le Sénat, les marcheurs, ils sont minoritaires. La majorité, c'est les Républicains. Et il y a un groupe communiste extrêmement actif. Donc le texte, il est là-bas pour un moment. Et ensuite, il va revenir ici. Et ici, il va à nouveau tomber sur nous. Et nous ne lâcherons rien.
Et cela inquiète des marcheurs qui craignaient déjà un nouveau 49-3 en seconde lecture avant l'été et en parallèle à un échec de la conférence de financement.
Maxence Lambrec, alors quelques centaines de personnes se sont rassemblées hier soir dans le calme près de l'Assemblée pour dire non au 49-3. En revanche, au Havre, le local de campagne d'Édouard Philippe, tête de liste au municipal, a été tagué, caillassé par des manifestants qui ont laissé éclater leur colère après la décision du Premier ministre. Un salon de l'agriculture écourté, un semi-marathon de Paris reporté, fermeture d'établissements scolaires, suspension de messes dans l'Oise, l'intensification du coronavirus commence à avoir des effets concrets sur la vie quotidienne de tous les Français. Il y a aujourd'hui 100 cas avérés dans l'Hexagone depuis fin janvier. La France est devenue le deuxième foyer du coronavirus en Europe après l'Italie. C'est ce qui a conduit les autorités à annuler les grands rassemblements en milieu fermé. Une décision comprise par Arnaud Lemoine, le porte-parole du Salon de l'agriculture. Il est au micro de Valentin Boisset.
C'est une décision inédite et donc à situation inédite, réponse inédite. On a un certain nombre d'exposants qui vont remballer leurs affaires. On ne veut pas brusquer ni les gens ni les choses. Ils auront tout à fait le temps de démonter les stands, ranger leurs affaires, aménager tout ce qu'il faut pour les animaux. On va faire ça dans le calme, la tranquillité. On applique le principe de précaution, certes, mais en tout cas, il n'y a pas d'énervement par rapport à la décision. Il est évident que le dimanche, c'est un jour important pour les exposants. Le week-end, on est à plus de 65 000 visiteurs jour. Ce n'est pas rien, en effet, pour les exposants. Il est évident que tous ceux qui vendent des produits et autres boissons ou tout simplement tous ceux qui vendent quelque chose auront un manque à gagner et ils vont perdre une journée. L'ironie du sort, c'est de dire que le thème du salon cette année, c'était l'agriculture vous tend les bras. Elle ne tend pas les bras dimanche.
Autre décision des autorités. Dans l'Oise, dès demain, les établissements scolaires de 5 zones seront fermés. Élèves et professeurs doivent rester chez eux, sur Creil et les communes alentours, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lagny-le-Sec et La Morlaix, soit 26 000 élèves, 2 100 personnels de 102 établissements. Explication de Stéphanie Dameron, elle est rectrice de l'Académie d'Amiens et elle est au micro de Mathilde Dehimi.
La priorité des priorités, c'est de pouvoir assurer la continuité du service public et de faire en sorte que ces élèves puissent avoir cours. Nous sommes au 21e siècle. Il y a un tas de technologies, de dispositifs qui permettent de faire cours à distance, qui sont absolument remarquables. C'est l'occasion justement de pouvoir les déployer à travers notamment une plateforme qui est pilotée par le Centre National d'Enseignement à Distance, où à la fois nous allons retrouver des ressources pédagogiques, mais également la possibilité, à partir de lundi après-midi, pour les enseignants, de pouvoir piloter, mener, animer des classes virtuelles, donc à distance, avec leur classe. On verra physiquement le professeur.
Stéphanie Dameron, rectrice de l'Académie d'Amiens, avec Mathilde Dehimy. L'année 2020 s'annonce difficile pour les immatriculations de voitures neuves en France, comme dans le monde d'ailleurs. Ralentissement de la demande, épidémie de coronavirus et choix commerciaux délicats sur les moteurs thermiques et électrifiés. Selon les données du Comité des constructeurs français d'automobiles, les ventes de voitures neuves ont baissé de 2,7% en février. Et puis c'était attendu, c'est aujourd'hui dimanche que la marque de cigarettes la plus vendue en France, à savoir les Marlboro, passe la barre symbolique des 10 euros. Hausse des taxes pour réduire le tabagisme dans l'Hexagone.
Il est 7h06, c'est le journal avec Laurence Thomas. Laurence, pour Donald Trump, en pleine campagne électorale, c'est une victoire politique.
Il avait promis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Hier à Doha, au Qatar, les États-Unis et les talibans ont signé un premier accord de 4 pages qui prévoit un retrait graduel des soldats américains, la fin des violences commises par les talibans et l'ouverture prochaine de négociations inter-afghanes. En échange, les talibans promettent que l'Afghanistan ne sera plus une base arrière du terrorisme international. Reportage de Chloé Doma.
Les stylos à peine posés, c'est au cri de Allahu Akbar, Dieu est grand, que la délégation talibane s'est levée. 18 ans après le début de la guerre contre le terrorisme, les talibans ont résisté à la première armée du monde. Mohammad Shahin, membre de la délégation talibane.
Nous avons mis fin à l'occupation américaine. C'est une victoire pour nous et c'est aussi une bonne nouvelle car en discutant, nous avons trouvé un accord qu'aucune des parties n'arrivait à atteindre militairement.
Désormais, les talibans s'engagent même à lutter contre d'autres groupes terroristes, dont Al-Qaïda et l'État islamique.
Si les Américains se retirent, quel intérêt aurions-nous à protéger des gens qui peuvent nous causer des problèmes à l'avenir ? Nous sommes tombés d'accord sur quelque chose de rationnel, c'est gagnant-gagnant.
Selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, la balle est désormais dans le camp des talibans. S'ils respectent leurs engagements, le retrait américain débutera dans les prochaines semaines.
Chloé Doma, Doha, France Inter.
Joe Biden ressuscite sa candidature à l'investiture démocrate. L'ancien vice-président de Barack Obama vient de remporter largement la primaire de Caroline du Sud. Joe Biden se confirme comme le premier rival du favori Bernie Sanders. Mais la course reste longue jusqu'à l'investiture démocrate. La dynamique va s'emballer mardi avec le Super Tuesday lorsque 14 États vont voter ensemble. Au moins 13 000 personnes, dont des familles et des enfants, sont massées le long de la frontière entre la Turquie et la Grèce. La Turquie a entrouvert ses frontières migratoires avec l'Europe vendredi et elle menace de laisser passer un nouvel afflux de réfugiés syriens si elle n'obtient pas un soutien actif de l'Union européenne dans son bras de fer avec la Russie en Syrie. Emmanuel Macron appelle la Turquie et la Russie à un cessez-le-feu durable dans la région d'Idlib.
Enfin, Laurence, cette première mondiale dans un pays...
Dans un pays qui s'appelle le Luxembourg, où les trains deviennent gratuits. Alors certes, le pays n'est pas très grand, mais quand même, cette mesure concerne les bus, les trains, sauf la première classe, et les trams. Et cette mesure va s'appliquer à tous les passagers, les nationaux, les frontaliers et les touristes. Une mesure sociale et environnementale dans un pays où la voiture est reine et les embouteillages terribles. Reportage de Johanna Hochstein.
À la gare du Luxembourg, Margot attend son train pour rentrer chez elle à Metz. Cette Française qui travaille ici va bénéficier de la gratuité des transports sur la partie luxembourgeoise de son trajet. De belles économies en perspective.
C'est-à-dire qu'on va passer de 150 entre Metz et Luxembourg à peu près une soixantaine d'euros par mois.
Pour fêter cet événement, des concerts sont organisés dans les trams pour le plus grand bonheur des passagers. À l'initiative de cette mesure, le ministre de la Mobilité, François Bauche, espère soulager les ménages les plus défavorisés et faire évoluer les comportements. Actuellement, moins d'un habitant sur deux utilise les transports en commun au Luxembourg.
La gratuité, c'est en fait, comme je dis toujours, la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est vraiment la stratégie précise jusqu'en 2025 pour vraiment changer fondamentalement de paradigme au Luxembourg dans la mobilité.
Mais les cheminots craignent un afflux de passagers sur le rail. Mylène Bianchi, syndicaliste.
Les 10 dernières années, on a eu une augmentation de quelques 70%. Chaque voyageur, si même demain on aurait encore 10% de plus, on aurait vraiment du mal parce qu'on a toute notre infrastructure ferroviaire qui est déjà saturée.
Verdict donc dans quelques mois. Luxembourg, Johanna Hochstein, France Inter.
Et c'est la suite du 6-9 sur France Inter avec Pierre Veil.
C'était le journal de Laurence Thomas, la météo aujourd'hui.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski de Météo France est avec nous. Jean-Michel, du vent fort sur le centre du pays.
Ah, tout à fait, un vent turbulent un peu partout, mais particulièrement fort sur un axe Vendée-Charente-Maritime-Bourgogne-Auvergne, avec des rafales à près de 110 km/h possible, et 15 départements sur cet axe en vigilance orange. C'est la conséquence du passage de la dépression de tempête nommée Léon sur la partie centrale du pays. Donc une journée plutôt à rester sous la couette aujourd'hui, avec dans l'ensemble un ciel chaotique mêlé de pluie et d'orages, avec dans le détail des pluies orageuses de forte intensité accompagnée de violentes bourrasques dans le sud-ouest, notamment entre les Pyrénées et la Garonne. Ambiance également instable et orageuse sur une grande partie du pays. Notez que les régions les plus à l'est vont conserver les pieds au sec jusqu'en milieu de journée. Enfin, du nord de la Loire à la Belgique, forte précipitation à prévoir et parfois mêlée de flocons, en particulier de l'intérieur de la Bretagne, de la Normandie et du bassin parisien aux Ardennes.